RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Vous êtes prêts à nous appeler au 32-16? Vous allez avoir de bons sujets pour réagir encore aujourd'hui. Ce qui fait la France, ce qui fait notre société. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Réagir bien sûr.
Et vive le poulet.
Réagir bien sûr au 32-16 aujourd'hui avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée. Bonjour Mourad.
Bonjour, bonjour et vive les poulets.
Laura Barton-Martinez, la sophrologue et des nôtres. Bonjour.
Hola todos.
Et puis Jean-Loup Bonamy nous accompagne, le professeur de philosophie, le normalien. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour et vive Karim Bouamran qui résiste à la racaillisation et à l'américanisation de la société française.
Nous sommes tout à l'heure, nous serons alors allusion à la séquence qui a eu lieu hier sur BFM TV avec Olivier et moi et le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, à qui nous avons offert un sac.
C'était lamentable.
Master poulet.
C'était
qu'il n'a
lamentable.
Pas
il a eu bien raison.
Non, ce qui est lamentable, c'est qu'il aurait dû goûter parce qu'il faut toujours connaître le sujet qu'on évoque.
Mais ton poulet ukrainien fourgué par des trucs complètement américanisés, on s'en passe, hein, Olivier Truchot.
Bah, vous voulez qu'on reparle de Master Poulet?
Évidemment, Jean-Loup, il est chaud là.
Ça vous tente? Alors, pourquoi tu es contre Master Poulet?
Ah, pourquoi je suis contre Master Poulet?
Vas-y, dis-nous. Allez. On va. Vous avez la séquence aussi avec Karim Mouamran. Allez, on va prendre 10 minutes. On va refaire un petit Master Poulet. Allez, vas-y. Part sur Master Poulet.
J'ai 60 secondes.
Vas-y.
Pourquoi je suis contre Master Poulet? Bah, pour énormément de raisons. Je considère que la nourriture, contrairement à ce qu'on dit, c'est un enjeu très important. Tu vois, quand les gens ne mangent pas biologiquement, ils meurent. Donc c'est pas du tout un enjeu mineur. C'était un enjeu de révolte dans l'histoire, depuis les jacqueries du Moyen-Âge jusqu'au printemps arabe. Donc c'est une question majeure. C'est aussi une question anthropologique et culturelle. Et du coup, quelle France on veut? Est-ce qu'on veut une France racaillisée? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce qu'on veut une France,
mais c'est racaillisé, je vois pas où est racaillisé.
Avec Master Poulet.
Ah bon, tu vois pas le rapport. Et du coup, ça t'étonne pas aussi pourquoi certaines forces politiques défendent.
Parce que quand on mange des poulets, on est une racaille.
Parce que quand on passe son temps dans ce type de fast-food.
Parce que les jeunes sont forcément des racailles. Parce que sincèrement, je sais pas si t'as déjà été dans un Master Poulet, tu devrais peut-être y aller.
Je passe régulièrement devant.
Sincèrement, ce sont surtout des jeunes. Il y en a pas d'ailleurs qu'à Saint-Denis. Il y en a un à Boulogne, dans une banlieue plutôt chic de l'Ouest parisien. Et tu verras, effectivement, c'est le kebab. C'est aussi le burger ou le McDo, mais c'est plus cher le McDo. Donc les gens se rabattent sur le poulet.
Bien.
Du coin.
C'est très mauvais pour la santé. Comme l'a dit Karim, ça veut dire qu'en fait,
mauvais pour la santé,
ça veut dire qu'à Saint-Ouen, tu vas assigner en fait les populations issues de l'immigration, les Noirs et les Arabes, à bouffer des trucs dégueulasses. C'est ça aussi le fond du message. C'est une américanisation complète de la société française.
Poulet, c'est américain. Et McDo, c'est pas une américanisation.
Parce que Master Poulet, c'est pas américain comme.
Tu vas chercher des chaînes américaines, il y en a pléthore.
Oui, et c'est pas un problème.
KFC,
et c'est pas un problème.
C'est le KFC des pauvres.
Oui, c'est le KFC des pauvres. Donc c'est le KFC des pauvres. Et moi, je pense qu'on peut vouloir mieux pour Saint-Ouen et pour les habitants de Saint-Ouen. Ils ont droit à mieux.
Et qui
qu'on peut vouloir mieux pour la France.
C'est toi qui décides. C'est Jean-Loup qui décide.
Et pourquoi pas Karim, Monsieur le Maire.
Donc, c'est le Maire qui doit faire la police de la bouffe.
De quoi? Quand la police de la bouffe, quand la bouffe devient n'importe quoi, peut-être. Et il y a déjà assez. On est envahi par les fast-food. Regarde, tu le disais toi-même, McDo, c'est le premier restaurant en France. Est-ce que c'est la peine de rajouter?
C'est le premier employeur.
Est-ce que c'est la peine de rajouter un cran supplémentaire?
Je sais pas. Moi, je pense que je suis pour la liberté du commerce, la liberté des gens d'aller manger où ils veulent.
Ce débat est synonyme de la problématique du monde. J'aimerais bien qu'on ait ce débat, savoir s'ils sont pour une ouverture de Master Poulet en Somalie. Ça serait curieux de la réponse des Somaliens. Si leur problème, c'est de mal manger ou de manger. Quand on arrive dans un pays où le problème est là, c'est que ça va pas si mal. Ben oui, c'est un problème de riches. Voilà, et on est là à dire, alors qu'il y a une partie, il y a plusieurs milliards de personnes sur cette planète dont le problème est de bouffer, tout court. Et nous, notre problème à nous, c'est de choisir la qualité de ce qu'on bouffe.
Voilà. Oui, mais
c'est un des problèmes de cette planète.
Mais derrière, en fait, il y a des choix de société. Quel type de société tu veux? Est-ce que tu veux une société avec l'identité française ou est-ce que tu veux une société de plus en plus américanisée? Est-ce que tu veux une société où les gens,
le grand
remplacement,
par les Américains a eu lieu, je veux dire, quand ils sont venus nous libérer en 47. C'est l'hypothèse que ce soit les Américains, en même temps qu'ils nous libéraient, ils nous vendaient jeans et Coca-Cola. Je veux dire, c'était pas gratuit.
Laurent Barton, tu vas manger ce poulet. Enfin, si t'avais 20 ans, tu irais manger ce poulet.
Ouais,
à 1 euro.
C'était ce que je mangeais parce que le menu de la cantine me disait pas. On prenait nos 5 balles, on allait manger un kebab. Donc, s'il y avait eu un master poulet, j'aurais pris un master poulet. Enfin, je commence à en avoir. Franchement, j'en ai marre de ce débat de master poulet, pas master poulet. Je pense que tout le monde s'en fiche, hein. Bah, oui. Mais royalement.
Ah, bon, mais parce que vous comprenez pas les choix de société qu'il y a derrière et le type de société que ça induit, en fait. Alors que Karim, il l'a très bien compris.
Je préfère finir une phrase, en fait, parce que si l'émission commence comme ça, ça va être super long entre vous là. Honnêtement, je pense que c'est un faux sujet. C'est encore une guéguerre entre LFI et une autre partie de la gauche. Je pense qu'on a d'autres sujets beaucoup plus importants à traiter aujourd'hui plutôt que de parler encore de master poulet. Si monsieur le maire de Saint-Ouen, que j'apprécie en plus de surcroît, estime qu'il y a trop de fast-food et qui veut mettre une option,
une autre enseigne
ou un autre choix de nourriture. Ben, pourquoi j'ai envie de dire que le maire est aussi là pour préserver
ce qui est intéressant.
Je suis pas sûr que si Alain Ducasse il ouvre là-bas, ça marche, mais bon.
Pourquoi pas éduquer aussi un peu, éduquer d'une autre manière les gens.
Éduquer tout court.
Il y a déjà plein d'offres de restauration rapide. J'estime qu'il y en a trop.
Il faut s'interroger, c'est pourquoi ça fonctionne, Jean-Loup.
Parce
que c'est pas cher, parce que c'est 1 euro le pilon.
Très mauvaise qualité.
Deux, parce que effectivement, il y a un phénomène autour du poulet. La viande, la consommation de poulet cartonne, alors que la consommation de viande rouge baisse fortement.
C'est pas cher.
Et qu'il y a un côté effectivement mode, les croustilles, poulet, etc. Trois, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le maire, il a raison de dire, on peut pas avoir que du master poulet dans la ville. Il faut une diversification. Il y a d'ailleurs, ça ne concerne pas que le master poulet. Ouais. On peut pas avoir que du kebab. On peut pas avoir que des vêtements, enfin que des trucs de vapeur.
La question, c'est quel Saint-Ouen tu veux? Et derrière, quelle France tu veux?
Oui, mais lui, il veut.
Mais t'as pas que ça à Saint-Ouen. Enfin, moi, j'ai ma meilleure amie qui habite. Il y a plein de restaurants qui sont super mignons. Il y a plein de trucs sympathiques.
Même Thierry Marx qui a ouvert un bouillon, d'ailleurs, à Saint-Ouen aussi.
Je veux dire, c'est comme ça depuis la nuit des temps.
Ça se gentrifie. Après, Karim Ouamran, ce qu'il dit, effectivement, c'est qu'il ne veut pas que ce type.
Voilà, qu'il y a un monopole.
Pas obligé de partir en croisade.
De l'instrumentalisation. Parce que Bali Bakayoko, qui est le maire de Saint-Denis, a montré aussi Master Poulet. Donc, c'est LFI contre le Parti Socialiste.
Et c'est marrant que LFI vienne à un agent des modes américaines, en fait.
Mais il y a quand même une loi qui s'appelle l'offre et la demande. Je veux dire, s'il y a une demande de Master Poulet, ils s'en ouvriront. S'il n'y en a pas de demande.
Évidemment, LFI des fermeurs ukrainiens, ils ont changé sur cette
Oui, voilà, parce qu'ils défendaient la proximité et le bien élevé de la part des agriculteurs.
Ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Hein. Or, pour faire de la racaillisation, c'est ça qui se joue derrière.
Mais on n'est pas d'accord avec toi, c'est pourquoi tu emploies ce terme de racaillisation. Ouais. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas.
Parce que dans les mots, Jean-Loup, c'est.
Non, mais vraiment, je comprends pas.
C'est des Arabes et Noirs qui mangent ça. Du coup, c'est des racailles.
Non. Ah bon, c'est marrant parce que j'ai expliqué exactement le contraire tout à l'heure. J'ai dit justement les Arabes et les Noirs qui
vont être.
J'ai pas lu beaucoup de noms de racailles dans le dossier Epstein, moi.
Pourquoi manger du poulet chez Master Poulet fait de toi une racaille? Alors, explique-moi.
Pourquoi est-ce que d'un coup Jean-Loup en a reparlé avec nous? C'est parce que hier, donc, Karim Ouamran,
on va le forcer à
notre invité, le maire de Saint-Ouen, sur BFM TV dans notre émission Olivier et moi. Et à un moment, on lui a sorti un petit sac de Master Poulet. Alors bien sûr, c'était pas prévu, mais vous voulez qu'il goûte. Voilà la séquence.
Alors, vous avez dit que vous n'aviez rien contre Master Poulet. Est-ce que vous n'êtes pas en goûté quand même?
Non, mais je ne vais pas rentrer dans la...
Non, mais il y a saucisse, il y a pilon,
il faut
y a un petit donut.
Donc le pilon est à 1 euro, la saucisse aussi, je crois.
Oui, c'est ça, ouais.
Alors,
au total,
il y a
total,
des sauces,
voilà. Ça, 6,50 euros.
D'accord.
Donc c'est effectivement le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pourriez prendre un morceau?
Non. Ça renvoie à quoi, le pouvoir d'achat? La sécurité alimentaire, le sanitaire. C'est pour ça que c'est un sujet sérieux. Il n'y a pas de folklorisation. On est en train de parler de l'agriculture française.
Bien sûr.
On est en train de parler de la place de la France en Europe. On est en train de parler de l'aménagement d'une ville. Ce n'est pas une question de, on s'écharpe sur des questions de poulet.
Alors c'est marrant parce qu'Olivier Truchot, je me souviens d'un sketch des Inconnus avec Didier Bourdon qui joue le rôle d'un homme politique et il doit faire plein de choses démagogiques pour plaire aux Français, flatter les Français. Bah tu me fais un peu penser au journaliste qui fait ce genre de choses dans le sketch des Inconnus et Karim Ouamran lui refuse de s'abaisser à ce petit exercice démagogique et en effet il a raison si tu veux, les questions sanitaires, la santé des consommateurs, c'est un aspect important.
Il aurait dû consommer, puisqu'il était en train d'énoncer le master poulet, il aurait dû le consommer.
Poisonné.
Je suis en vie, Jean-Loup. Mais t'es aussi triste que les 2-3 députés LFI qui ont réagi à cette séquence, qui ont donné comme toi des leçons. Vous êtes des tristes cires, en fait. Voilà.
Moi, je suis pour le SMIC à 10 000 euros.
Voilà. Démago VS triste cire.
Dans cette affaire, il y a aussi l'argument olfactif, c'est-à-dire Karim Bouamran dit que c'est une nuisance d'odeur aussi pour les habitants, fort, le poulet, pour ceux qui sont fort, le poulet. Juste au-dessus, qui a un problème d'extraction.
C'est on ça,
a
les problèmes de la
on
France.
On a Florent.
Non, mais vraiment.
Attendez, Florent de l'Orne qui veut réagir, agriculteur. Bonjour, Florent.
Ouais, bonjour les GG.
Salut Florent. Vous voulez réagir à l'affaire Master Poulet, vous l'agriculteur. Dites-moi pourquoi alors.
Ouais, c'est un petit ras-le-bol. Je peux comprendre l'argument du c'est pas cher, et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des soucis aujourd'hui pour manger, je peux comprendre. Mais il y a un moment, il y en a juste, désolé du mot, ras-le-cul. En France,
ras-le-bol,
nous, quand
vous
on
en
produit,
avez assez, donc voilà.
Ouais, c'est ça. Nous, quand on produit en France, ouais, vous êtes trop intensif, trop ceci, trop cela. Quand il y a un poulailler un peu grand, soi-disant, j'ai pas de poulet, hein, mais je vais défendre les gars.
Les gens, ils en veulent pas.
Ils en veulent pas. Et là, par contre, du poulet ukrainien, c'est génial. Allons-y. Et là-bas, l'intensivité, c'est autre chose. Il va peut-être falloir que les filles qui nous disent chez nous qu'on fait de la merde, qu'on fait d'intensif, ils aillent se promener 5 minutes là-bas. Comment c'est en avoir un petit peu ras-le-bol dans ce pays où est-ce que nous, on nous demande plus blanc que blanc et après, on fait venir de la merde. Le Mercosur, toute la suite. Ah, c'est bien, on va bouffer pas cher, les gars. On va bouffer pas cher, s'il n'y a pas de souci. Mais il ne faudra pas pleurer après derrière quand il y aura des problèmes de planète en plus et des sanitaires.
Alors, j'ai vu qu'effectivement, ces poulets. En fait, ce sont l'Espagne et les Pays-Bas qui vendent essentiellement des poulets. Oui, parce qu'ils ont des élevages intensifs. Sauf que. Attendez, je finis. Attendez, voilà.
Je suis. Centimètres carrés aux Pays-Bas par rapport en France, ça n'a rien à voir.
Alors, justement.
Ils sont dans l'Union Européenne, c'est parce que nous, on se remet d'énormes. Encore en plus.
Je finis la démonstration. Florent, vous avez raison. L'Espagne et les Pays-Bas font déjà de l'élevage intensif. Mmh. Mais comme ils fournissent énormément, ils n'ont pas assez en volume. Donc, ils achètent aussi en Ukraine. Ouais. Ils achètent au Brésil. Ouais. Et j'ai même vu qu'ils achetaient du poulet en Thaïlande. Et donc, en fait, ils le refont venir en Espagne et aux Pays-Bas. Là, ils refont la découpe. Ils refont du conditionnement. Ce qui fait qu'ensuite, sur les boîtes, ils peuvent de nouveau mettre Espagne et Pays-Bas.
Poulet ukrainien ou thaï.
Et ils vendent 30% moins cher que
des poulets viennent de Thaïlande.
Oui, mais là, tu regardes, il y a une exploitation qui voulait ouvrir je ne sais plus où, Label Rouge, un jeune agriculteur qui veut faire de l'élevage en plein air, etc. Tout le monde est vent debout. Donc en fait, c'est pour ça que ça m'énerve Master Poulet, parce qu'en fait Master Poulet c'est pas le sujet. Le sujet c'est que encore une fois,
on veut,
c'est énorme.
C'est-à-dire que t'as des gens qui se mettent à hurler vent debout parce que oui, tu vas avoir un agriculteur qui va élever de la volaille Label Rouge française. Mais tant qu'on ne laissera pas les gens travailler,
le Label Rouge français, tu pourras pas le vendre à un euro. Il faut savoir ce qu'on veut.
Oui,
la qualité, ça se paye.
Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi, Olivier. Mais si tu augmentais,
non, je suis d'accord.
Si tu augmentais la capacité française de vente de poulet, si on était capable d'autoriser à nos agriculteurs de travailler correctement, qu'on leur enlevait des charges, des normes supplémentaires que celles de l'Union européenne, peut-être que nos agriculteurs pourraient être en
France
concurrentiels.
On est là au cœur de toutes les contradictions françaises. C'est pour ça, moi, je suis assez d'accord pour dire que Master Poulet, c'est pas un sujet anodin. Parce que, par exemple, tu vois les députés, les filles, défendre Master Poulet, ce sont les mêmes qui sont contre le Mercosur. Donc il y a quelque chose de contradictoire.
Ils sont en contradiction complète. Ils sont
après, en même temps, Didier Giraud, notre agriculteur, nous dit toujours, la qualité c'est un coût. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait croire aux Français qu'on pouvait manger pour rien, pour 1 euro, pour 2 euros. Ben non, parce que derrière il y a des agriculteurs français, il y a un travail, il y a un savoir-faire, et ça doit se payer. Il faut que les Français comprennent aussi que bien manger, ça coûte un peu plus cher.
Il faut du pouvoir d'achat.
Il y a plein de contradictions. Et après, il y a quand même plein de pouvoir d'achat, parce que
sûr,
on mange aussi en fonction de ce qu'on gagne.
Mais pour moi, Master Poulet, c'est un bon sujet,
parce qu'il y a plein de sujets différents qui se contredisent. Et on ne peut pas le résumer comme le fait Jean-Loup, simplement problème de racaille.
Je suis certain que ceux qui vont chez Master Poulet pourraient manger chez Georges Blanc.
On a Tristan qui va en discuter avec nous. Je remercie Florent, là, notre ami agriculteur, d'avoir été des nôtres. Tristan, il est à Paris. Bonjour Tristan.
Salut GG.
Vous avez appelé parce que vous ne voyez pas le problème Master Poulet, vous, en fait, c'est
ça? Ouais, vraiment. Enfin, j'aime bien qu'on se dispute de tout, surtout en France, on aime ça, et les GG, c'est cool.
Nous, on est payé pour ça, donc on exécute le contrat.
Allez-y. Mais bon, déjà, moi, je suis pas une racaille, hein. J'ai 45 ans, j'ai monté une entreprise, forme dans l'intelligence artificielle, rien d'une racaille. Et j'aime bien manger des cuisses de poulet. Je mange du poulet rôti avec ma famille depuis 20 ans dimanche. J'adore ça.
Et vous allez chez Master Poulet ou pas?
Bien sûr, je vais chez Master Poulet, il y a des cuisses de poulet. Et je dirais, vous compariez ça au KFC. Le KFC, c'est avec plein de panures, c'est gras. Bon, j'aime bien aussi, mais c'est gras. Master Poulet, c'est juste des cuisses de poulet rôties. Alors après, si on discute de la provenance de la cuisse,
voilà.
Et discuter de ces sujets-là, moi, je veux bien. Mais alors de partir à empêcher les gens de manger des cuisses de poulet, et en particulier des jeunes. Moi, j'ai deux enfants. Si mon grand, il me dit, je vais manger des cuisses de poulet rôties, ben, dans le principe, je suis moins contre qu'il aille manger un McDo ou un KFC.
Donc, ou manger des tomates en hiver, hein.
Et je mange pas de tomates en hiver, je sais pas pourquoi c'est le rapport avec ça.
Ouais, mais
ben oui.
Du coup, Tristan, vous n'avez pas l'impression de trahir un peu l'agriculture française avec ça?
De trahir l'agriculture française? Non, j'ai pas cette impression-là. Je mange juste des cuisses de poulet rôti. Maintenant, si on travaille sur les provenances, si on fait dans le master poulet des cuisses françaises à 1 euro de plus, enfin, on peut creuser les choses, améliorer, mais interdire, ça suffit. On devient fou. On
mais surtout, par exemple,
de manger des cuisses de poulet, sérieusement.
Non, on interdit rien.
Mais Tristan,
on a aussi d'autres contradictions.
Je suis en train de dire depuis tout à l'heure, il faut interdire dans la à oui, un point, c'est pour les racailles, je ne sais quoi.
Non, mais on veut, on veut.
Parce que c'est de la viande à l'air, c'est pour les racailles.
Jean-Loup, c'est le shérif de la bouffe.
Ouais.
Merci. Non mais pardon Tristan, autre contradiction. On a fait venir du poulet ukrainien par solidarité aussi avec l'Ukraine. Quand la guerre s'est déclenchée, on a décidé de pouvoir importer du poulet ukrainien. D'ailleurs, des agriculteurs français ont râlé en disant que c'était une concurrence déloyale. Ben oui, mais c'était en soutien.
Tristan,
Moi j'étais contre. Oui. Les agriculteurs à l'époque, en leur temps, ils l'avaient dénoncé. Et on voit aujourd'hui les conséquences que ça a sur eux, sur notre économie.
Et est-ce qu'on pourrait pas plutôt lâcher un peu du lest sur le modèle économique de nos agriculteurs pour leur permettre d'être plus concurrentiels avec des produits de qualité? C'est peut-être ça le problème de fond.
Merci. Battez-vous sur les leviers d'importation, battez-vous sur les lois.
Ouais, on sur les normes qui sont.
Manger des cuisses de poulet, sérieusement.
C'est ce que je dis, Master Poulet.
Tristan, merci d'avoir été avec nous. Salut Tristan. À bientôt dans les GG, à bientôt dans les grandes gueules. C'était pas prévu, mais que voulez-vous, les grandes gueules, c'est comme ça. On s'est adapté au coup de gueule de l'ami Jean-Loup Bonamy.
Ah oui,
ça
nous a permis le soutien, quoi.
Ça nous a permis de discuter de nouveau de Master Poulet. Dans un instant, depuis hier, les salariés français ont arrêté de financer les retraites des seniors. Est-ce que vous en avez ras-le-bol de bosser pour financer les retraités? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 9h20. Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. N'oubliez pas qu'on joue, on joue pour partir en vacances grâce à Bellambra. C'est un séjour tout compris premium. Vous choisissez la mer, la montagne ou la campagne. Vous avez 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Bellambra s'occupe des enfants, des activités, des repas, le all inclusive premium, le tout compris premium, pour le dire en français et ne pas se laisser aller à l'américanisation des esprits pour faire plaisir à notre ami Bonamy. Dans tous les cas, vous envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16, tirage au sort et gagnant tout à l'heure en direct à 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules.
La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Ah là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Surtout pas. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend rognon, la retraite.
C'est qui, c'est Gilbert Bécaud, c'est qui ça? Ouais, ça. Ah bah dis donc, une éternité que j'avais pas entendu la voix de Bécaud.
Et de Toulon.
On l'entend pas assez, effectivement. Bonne nouvelle pour les actifs. Depuis hier, vous avez arrêté de travailler pour financer la retraite de vos aînés.
Oui, hier, vous le saviez peut-être pas, mais c'était le jour de libération des actifs. C'est-à-dire que du 1er janvier au 4 mai, toutes vos heures travaillées servent à financer les retraités. Et à partir d'aujourd'hui, bah, vous continuez à travailler un peu pour l'État, hein, parce qu'après, on est libéré au mois de juillet. Alors, le poids des retraites sur le salaire des actifs n'a jamais été aussi important, puisque si on fait un comparatif, en 1970, on travaillait pour financer les retraites jusqu'au 27 février seulement. Les retraites comptent pour environ 25% de l'ensemble des dépenses publiques. C'est le premier poste, d'ailleurs, de dépenses sociales en France, devant la santé, les allocations familiales. Donc, on a nos chers retraités qu'il faut pour qui il faut travailler, sachant que les actifs aujourd'hui cotisent comme jamais, ils travailleront plus longtemps, ça on le sait, et on sait aussi qu'on ne percevra pas, nous les actifs, ce que nos aînés sont en train de percevoir. Donc il y a aussi un problème générationnel. Est-ce que ça vous déplaît cette histoire de temps passé pour les retraites à travailler?
Mouade.
Moi, c'est le modèle économique. Je pense que notre système de retraite, qui est tellement magnifique que personne dans le monde ne veut nous copier, je pense que notre système de retraite est une pyramide de Ponzi et qu'il faut totalement le revoir. Moi, je suis pour la retraite par capitalisation.
Intégrale
Oui, mais imaginons un salarié qui cotise pendant 40 ans, c'est-à-dire ses charges sociales qui servent à la retraite, on va dire que c'est entre 6 et 800 euros pour un salaire moyen. Au bout de 40 ans, il a 800 000 euros. 800 000 euros bien placés, c'est 40 000 euros par an. 40 000 euros, ça fait environ 3 500 euros par mois. Il ne les touchera pas à la retraite.
Et en oui, plus, il est bien placé, mais un placement, ça prend, c'est un risque.
Mais non, bien placé aujourd'hui. Et en plus, sans risque. Et en plus, il aura un pactole de 800 000 euros pour se faire plaisir qu'il n'a pas. Voilà. Et donc, éventuellement, ses enfants pourront hériter. En filant bien sûr 50% à l'État, ça c'est normal.
Oui, mais enfin, il faut que...
Donc moi je suis plutôt pour notre système de retraite est obsolète. Il a été conçu à une époque où le nombre de travailleurs était supérieur au nombre de retraités. Il est aujourd'hui obsolète. C'est une pyramide de Ponzi qui va exploser. Si on n'a pas des hommes politiques suffisamment courageux pour remettre ce système en question en profondeur, pour l'atomiser et repartir sur d'autres bases, on s'en sortira pas. On peut mettre les rustines qu'on veut, le mal est fait, notre système de retraite est mort. Et on ne le ressuscitera pas. C'est ce que je pense. Moi, je suis pour la retraite par capitalisation.
Laura ?
Moi, c'est juste la formulation qui me dérange, parce que j'ai envie de te dire que les retraités, là, qui sont actuellement à la retraite, n'y sont pour rien.
Et qu'eux-mêmes, quand ils ont travaillé, ils ont financé la retraite et
voilà.
Leurs aînés.
Donc, il faut arrêter de dire ça. Il faut dire qu'on arrête de financer le système, pas eux. Eux, ils n'y sont strictement pour rien et ils ont bien gagné leur retraite. Je suis d'accord avec Mourad sur la retraite pour capitalisation. Je laisserai cependant, encore une fois, moi, je suis une libérale et pour la liberté. C'est-à-dire qu'il y aurait un régime public.
Oui, tu peux choisir.
Voilà. Tu sais que tu vas pas dépasser grosso modo les 1005 de retraite parce que c'est financé entre vous, ou la capitalisation. Moi, c'est plus ça que je prône. En revanche, ce que je constate toujours, c'est qu'on a un État qui part du principe que l'économie, c'est un gâteau qu'on doit constamment diviser. À aucun moment, on se pose la question de comment augmenter le gâteau.
Moi, je pars du gâteau.
Oui, en fait, maintenant, on ne peut plus le répartir de manière équitable. Donc, ce qu'il faut faire, la seule solution pour tout sauver, c'est de faire grossir le gâteau. Et comment on fait grossir le gâteau? En ayant une meilleure économie et en arrêtant d'avoir des politiques. Je ne veux pas spoiler un peu le sujet d'après, parce que je vais en parler. Mais c'est encore une fois, on a un État qui ne fait que des mesures pour un instant T, qui ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Là, on le voit, de faire en sorte de ne pas blesser.
Mais c'est quoi? Il faut plus de gens au travail, plus d'activité,
Faut changer le système. Tu rajoutes des actifs, tu fais en sorte de redonner une fiscalité qui est plus ou moins égalitaire avec les pays comme l'Irlande, pour qu'on redevienne attractif, non pas que pour une carte postale, enfin pour une adresse de siège social, mais aussi pour des avantages fiscaux, pour faire enfin en sorte de gagner plus de recettes fiscales et d'augmenter la part d'actifs.
Avant de donner la parole, Jean-Louis, on a Serge qui est au 32-16, qui est retraité justement, il est du côté de la Charente-Maritime, à Sainte-Marie-de-Ré, si je ne m'abuse, comme disait le docteur. Bonjour Serge.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour, bienvenue. Alors, ça y est, les actifs sont libérés depuis hier du poids des retraités, mon cher Serge. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, eh bien moi je suis un retraité de 69 ans, mon épouse a 65 ans, je suis horrifié par ce qui se passe, parce que il faut absolument que les retraités fassent un énorme effort. C'est pas normal que ma fille se lève tous les matins en ayant deux enfants à charge pour aller gagner un salaire qui n'est pas assez élevé pour financer des gens qui méritent la retraite, mais qui vont pleurer parce que ils vont perdre 30 euros. Enfin, je veux dire, le dernier gouvernement, le cornule a sauvé sa peau avec des gens qui sont des fous, quoi. Parce qu'il a voulu la stabilité, mais il a accepté des choses qui sont inacceptables. Et 52% des retraités, continuer à financer, à payer des retraites, notamment avec l'argent de l'État, les retraités sont irresponsables. Ils n'aiment pas leurs enfants, ils n'aiment pas leurs petits-enfants.
Non, vous pouvez pas dire ça.
Mais si,
vous êtes pour l'euthanasie ?
Non, pas du tout.
Souvent, ils aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous ne pouvez pas dire ça.
Bien sûr que si.
Et bien, c'est là la difficulté.
Et même souvent, ils les aident.
Mais oui. Bien sûr qu'ils les aident, et je connais bien le sujet. Le problème, c'est qu'on crée un déficit. On a 6 300 milliards d'épargne. On crée un déficit. Parce que quand l'État donne, quand la retraite augmente de 30 euros pour un retraité qui a 2 000 balles par mois, il met les 30 euros en épargne.
Pourquoi, à votre avis?
Pourquoi? Parce qu'il a peur de je sais pas quoi.
Voilà, donc c'est peut-être contre la peur qu'il faut lutter. Il faut peut-être remettre de la confiance pour que l'argent qui est épargné revienne sur le marché, sur le pouvoir d'achat des Français.
Ce sont avant tout les retraités. Quand on parle d'épargne des Français, c'est avant tout l'épargne des retraités.
Mais vous avez raison, Serge, la démonstration de Serge est vraie, c'est-à-dire que l'actif paye les retraités, l'actif finalement ne s'en sort pas et l'argent qu'il donne pour le retraité, finalement le retraité lui redonne en l'aidant.
Éventuellement, c'est pour ça que c'est une pyramide de Ponzi, c'est de la cavalerie depuis le début.
On est quand même dans un système qu'il faudra mettre en question. Complètement ubuesque, vous avez raison Serge. Alors Jean-Loup Bonhomme, tu es d'accord avec Serge?
Ah bah oui, je tiens à féliciter notre auditeur pour un propos qui est vraiment courageux, qui est le contraire de l'égoïsme, puisqu'il ne prêche pas pour son intérêt personnel, et en même temps d'une très grande lucidité. Regarde, par exemple, si tu regardes le budget de l'éducation, qui est une dépense quand même d'avenir, d'investissement en France, il a l'air assez élevé quand tu compares aux autres pays européens. Mais en fait, dans ce budget, il y a la retraite de tous les enseignants retraités, donc il ne sert absolument pas aux enseignants actifs sur le terrain. Et si jamais tu enlèves ça du budget, tu te rends compte que le budget de l'éducation nationale en France, en fait, il est assez dérisoire comparé aux autres pays européens, une fois que tu as enlevé la retraite des enseignants retraités. Voilà. Donc, on voit bien que on a une société qui paye pour les retraités et qui n'investit plus du tout dans l'avenir. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. On voit, contrairement à notre auditeur Serge, que beaucoup de retraités ont un comportement égoïste, parce que dès que tu leur demandes de faire un petit effort, par exemple de dire, bah écoutez, ça va plus être indexé sur l'inflation. Voilà, c'est plus indexé
c'est
sur l'inflation.
C'est pas vrai, ils sont d'accord dans les sondages avec ça.
De quoi?
Non, alors ça, tu vois, trompe-toi, il y a un sondage récent qui a été publié, et les Français, même les retraités, étaient d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Je pense que c'est les politiques qui pensent qu'il faut toujours caresser dans le sens du poil, d'une façon électorale. Mais les retraités eux-mêmes, moi je suis pas d'accord, ils sont pas égoïstes, ces retraités, ils vivent avec nous. Je veux dire, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, donc ils ont bien conscience des difficultés de la nation. Et donc ils sont prêts aussi à faire un effort. Pour arrêter de dire d'un côté il y a les retraités égoïstes, de l'autre les jeunes racailles. Ouais, alors toi, qui va bien pour toi, Jean-Loup? Quels sont les gens que tu acceptes?
Et également, autre problème, c'est d'avoir mis vraiment une erreur absolument catastrophique, en plus des 35 heures, c'est d'avoir mis la retraite à 60 ans pendant plusieurs décennies, ce qui a augmenté le stock de retraités.
Oui, ça c'est pas faux, c'est pas faux.
Que Lecornu, pour sauver son siège, voilà, les Français qui ont travaillé jusqu'à aujourd'hui pour financer le système de retraite, ils peuvent dire merci à Monsieur Lecornu pour sauver son siège, de s'être vraiment couché devant Olivier Faure et donc d'avoir encore prolongé un peu plus le moment dans l'année à partir duquel on est libéré.
Jean-Loup, tu peux aussi admettre que les retraités, même si je n'aime pas ce système, je le dénonce complètement, je suis pour la retraite par capitalisation, les retraités participent au paiement de leur retraite de façon directe et indirecte, c'est vrai, ne savoir que par le simple fait qu'ils ont un pouvoir de consommation supérieur à la moyenne. Et donc, de par la consommation, ils payent de l'impôt. Et une partie de cet impôt sert à payer leur retraite. Donc aujourd'hui, les retraités participent aussi de façon active à l'économie du pays. Et ça, on peut pas le nier. Ça veut pas dire que quand on arrive à la retraite, en retraité, ils dépensent plus rien. Au contraire, il a du temps, donc il dépense. Il a souvent un pouvoir d'achat.
Il dépense moins qu'un actif, quand même.
C'est pas sûr.
On a Michel qui va intervenir dans notre discussion.
Il va dépenser plus en trajet pour aller au boulot.
Après, parce qu'il a les enfants.
Après Serge, on va aller voir Michel en Indre-et-Loire. Bonjour Michel.
Bonjour les grandes gueules.
Comment vous réagissez, vous, Michel, alors dites-moi.
Moi, je suis en colère d'entendre les propos de Jean-Loup.
Ah oui.
Ah bah, ça se comprend. Ce matin, je sais pas ce qu'il a dit.
Et encore, vous êtes hors micro si vous saviez ce qu'il a dit.
Quelle honte. Je suis retraitée, j'ai bientôt 73 ans. Ma retraite, j'aurais pu la prendre un peu avant 60 ans parce que j'étais carrière longue. J'ai cotisé 191 trimestres. Il n'en fallait que 165, donc c'était donné les 20 et quelques trimestres cotisés en plus. Ma retraite, je l'ai prise à 62 ans. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à travailler à 21 ans, on m'a pas demandé mon avis. On m'a retiré 25% tout au long de ma carrière sur mon salaire. Sinon, j'aurais peut-être pu le placer, cet argent-là.
Eh oui.
Je l'ai
maintenant, c'est 37% qu'on retire sur le salaire.
Je ne le regrette pas. Maintenant, je comprends, j'ai des enfants qui sont jeunes, qui en bavent et qu'on aide. Mais on ne peut pas changer la donne comme ça d'un seul coup.
Bien sûr.
Il faut peut-être faire quelque chose de progressif. Hein.
Récupérons des gens les 5 milliards, les 100 milliards des agences d'État avant de taper sur les retraites. Il y a plus d'argent à prendre, là.
Et voilà. Moi, nous, avec mon mari, on a une bonne retraite, on ne se plaint pas. Mais on paye 2 mois de retraite en impôts.
Oui, mais
on
Michel,
paye encore une taxe foncière.
Michel, pardon, vous dites j'ai cotisé 25%, mais aujourd'hui, c'est ce que montre le sujet que traitons, c'est 37%.
Mais c'est pas la faute de Michel.
Oui. Le salaire global, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on cotise plus, et on sait que les actifs, si on ne change pas le système, finalement, toucheront moins. Alors peut-être que
d'ici là, on enlèvera le système. C'est pas Michel qui doit être pénalisé.
Non, je suis d'accord.
On ne peut pas changer la donne,
on pourrait. Alors, je suis d'accord. Moi, je suis
contre la bataille des générations. Mais par exemple, on pourrait avoir une retraite qui n'est pas indexée sur l'inflation.
Jean-Louis, il faut arrêter de dire
que c'est des microéconomies.
On n'a pas opposé les Français de différentes générations. Ça me paraît stupide d'opposer les Français parce que chaque génération a eu son apport. Si que là, c'est parce qu'il y a une génération précédente qui a eu son apport aussi. Voilà, donc il ne faut pas opposer. Il y a déjà suffisamment de sujets où on oppose les Français, Michel, notamment le poulet, pour les opposer sur les retraites.
Michel et Serge, ce qui est intéressant, c'est de regarder deux chiffres. C'est-à-dire que depuis hier, on ne paye plus pour les retraites, mais le salarié que tu es, il faut qu'il attende le 18 juillet, pour vraiment vivre du fruit de son travail. C'est-à-dire qu'après les retraites jusqu'au 4 mai, jusqu'au 18 juillet, tu payes là, c'est la fiscalité. Tu payes pour
l'État. La fiscalité indirecte qui entre en jeu. Donc on
n'est pas à partir du 18 juillet, tu peux te considérer comme étant presque libéré fiscalement.
Ça serait le 15 décembre si Olivier Faure ou Marine Tondelier étaient président de la République.
Le 35
tu
décembre.
Tu serais libéré à peu près. Oui, voilà. Entre le 15 et le 35 décembre, ce serait ta date de libération.
On considère que le 18 juillet, c'est le jour où tu peux réellement profiter du fruit de ton travail. Tu as payé tes impôts et tes cotisations sociales.
Non, mais là, ce qu'il faut faire, c'est une réforme des retraites, ça, on est tous d'accord que le système ne peut plus tenir.
Et la capitalisation, c'est plus un tabou. Je ne sais pas si vous avez constaté, il y a quelques années encore, prononcer le mot, c'était
j'en ai même un Gabriel Attal la semaine dernière.
Regardez Gabriel Attal.
On pensait que la capitalisation, c'était un truc de riche. Là, on explique aux gens qu'en fait, c'est juste que les 25%, alors maintenant les 37% que tu donnes à l'État, bah, on te les rend et c'est à toi de faire en sorte que ça fonctionne.
C'est de la sémantique, c'est parce que dans capitalisation, tu as capital.
Exactement, société capitaliste.
Alors que les fonctionnaires eux-mêmes sont dans la capitalisation. Tu as le préfond.
Moi, j'aurais aimé finir mon propos si ça dérange.
Oui, pardon, Laura.
Et je pense qu'on, donc, déjà, on est d'accord tous, et même les retraités le sont, sur le fait qu'il faut une réforme des retraites. Sauf que, en attendant, il y a quand même une gabegie financière au sein de l'État. Combien d'administrations sont payées alors qu'il n'y a strictement pas besoin? On pourrait taper peut-être sur les retraites ou les cumuls de retraites de nos députés. On pourrait les agences régionales, communales, intercommunales, départementales, qui font exactement le même boulot pour au final ne tirer aucun profit. Les subventions, les guerres, les machins, les patins, les couffins. Je pense qu'il y a 2-3 coups de hache à mettre d'abord que de une fois encore. Mais de toute façon, c'est toujours pareil.
Oui, c'est les cibles populaires là.
Mais oui, mais l'État en fait, c'est ce qu'il fait. Il met des cibles sur des communautés, alors que ce soit des communautés d'âge, de jeunes, d'actifs, d'inactifs. C'est ce que j'entends par communauté. Pour éviter que la cible se mette sur
leur
gauche.
Les vrais sujets.
On va poser la question, est-ce que vous en avez assez de payer pour les retraités, oui ou non? Depuis hier, 4 mai, vous êtes libéré. Quel est votre sentiment?
Non. Voilà.
Non, vous dites non, marre de bosser pour les retraités, vous dites non à 64,4%. Dans un instant, à 10h moins le quart, le on s'en fout, on s'en fout pas, Emmanuel Macron pousse la chansonnette. 338 mots en moins prononcés chaque jour, à cause des écrans, on a moins de vocabulaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? On va voir ce qu'en disent nos GG. Laura Barton-Martinez, Mourad Boudjelal et Jean-Loup Bonamy.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, qui vous envoient en vacances avec Bellambra. C'est le tout compris premium Bellambra. 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vous voulez des vacances, ça tombe bien. Bellambra a ce qu'il faut. Il s'occupe des enfants. Vous avez toutes les activités nécessaires. Vous êtes comme des coqs en pâte. Si vous voulez juste prendre le temps de prendre le soleil, de bouquiner.
Comme des poulets.
Comme des master poulets.
Arrêtez.
Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Et Bellambra s'occupe de tout, vous prend en main à la montagne, à la campagne ou à la mer, comme vous voulez. Rendez-vous tout à l'heure à 11h15 avec le gagnant.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'est attaqué à un monument, les GG. Il a osé pousser la chansonnette sur du Charles Aznavour lors d'un dîner d'État en Arménie. Est-ce qu'on écoute la bohème version Macron, les GG?
Non.
Avec plaisir.
Ah bah oui, avec plaisir. Bon, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad?
Allez, on s'en fout pas.
Laura?
Je m'en fous.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Jean-Louis, pourquoi tu t'en fous pas?
Bah, je m'en fous pas parce que ça montre, le geste d'Emmanuel Macron montre qu'il y a des liens très forts, historiques, entre la France et l'Arménie, donc depuis Charles Aznavour et jusqu'à aujourd'hui où la France a été l'un des très rares pays à soutenir l'Arménie quand elle a été agressée par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est bien, ça montre l'ancienneté et la force des liens entre nos deux pays et soutien à nos frères arméniens.
Et je m'en fous pas parce que ma grand-mère s'appelait Marie Bedros Karamanian, donc ce qui donne que j'ai une partie d'origine arménienne. Donc j'étais sensible à la visite du président de la République. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il gagnera pas The Voice. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa qu'un président de la République cesser la chansonnette, surtout. Charles Aznavour, c'est une très belle chanson. Et donc, je trouvais ça plutôt sympa et plutôt décomplexé de sa part. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt bien.
Ce qu'il faut, il y a.
Bah oui, on est passé sur de la musique alsacienne. Là, Alain, pardon, je te coupe. Pourquoi ? Parce que la consommation de choucroute explose aux États-Unis. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad ?
On s'en fout.
Laura ?
On va t'expliquer pourquoi. Hein.
Ouais, je m'en fous pas, allez. Jean-Loup ?
Allez, on s'en fout pas, mes petits poulets.
Bon, ce chou fermenté. Le chou fermenté, emblématique de la gastronomie alsacienne, bien sûr, cartonne outre-Atlantique. Tout est parti d'une confidence de la femme de Robert Kennedy Jr. C'est le ministre de la Santé de Donald Trump, hein, qui affirme que son mari en mangerait tous les jours au petit déjeuner. Un légume, selon lui, rempli de probiotiques et très bon pour la santé. Lui qui prône une alimentation naturelle avec son fameux slogan « Make America healthy again ». Pourquoi tu t'en fous pas, Jean-Loup ?
T'en fous pas parce que ça révèle, ça montre une théorie que j'ai souvent expliquée, que j'ai même expliquée dans les cours que j'ai pu donner. C'est qu'en fait, les Américains, qu'on prend toujours pour des Anglais, sont en réalité des Allemands. La deuxième vague migratoire la plus importante de l'histoire des États-Unis, c'est l'Allemagne. Après, chaque Allemand a un oncle... Un oncle américain à très loin derrière les Français. Trump, c'est un nom de famille allemand. Le hot dog typiquement américain se fabrique avec une saucisse de Francfort. Ouais. Le hamburger, ça veut dire le hambourgeois, qui est une ville en Allemagne. Donc, excusez-moi, mais les Américains sont des Allemands. Ils le montrent, y compris dans leur rapport à la nourriture.
J'ai beaucoup d'amis américains qui sont d'origine allemande.
Bah oui, voilà. Les Américains sont des Allemands.
Mais là, le sujet, c'est surtout qu'on a Robert Kennedy Jr., qui est ministre de la Santé, qui est accusé d'être un peu complotiste. Il était très anti-vax pendant le Covid, etc. Qui nous explique que finalement, manger une choucroute et un steak, hein, parce qu'à 6h30 le matin, il mange un steak et une choucroute, et il dit que c'est bon pour la santé. Ouais. Et ça fait exploser les ventes de choucroute. Ouais, et c'est bon pour l'Alsace.
Ballonné quand même.
Comme tu t'appelles Kennedy, je pense pas que ce soit la bombe qui soit le plus dangereux pour ta santé.
Robert Kennedy Jr. mange de la choucroute, je m'en fous royalement. Ouais. Mais c'est en soutien avec l'Alsace que j'ai visité ce week-end. Et donc, du coup.
Oui, j'étais à Colmar.
J'étais à Colmar et j'ai mangé au Grincheux à Ribeauvillé. Donc j'embrasse Laurence, la tenancière du Haut Grincheux. Donc voilà, si ça peut permettre à l'Alsace de rayonner, eh ben tant mieux.
On enchaîne, Anaïs.
Bon, il est GG. Simple fait, Mourad, de parler était devenu un effort finalement. En 15 ans, prononce en moyenne 338 mots en moins chaque jour. C'est 28% de moins par rapport à la fin des années 2000 quand même, notamment à cause des écrans. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Laura ?
Évidemment qu'on s'en fout pas.
Mourad ?
On s'en fout pas.
C'est le résultat d'une étude américaine, un déclin qui pourrait s'expliquer par l'explosion des communications digitales, donc les SMS, les messageries instantanées, les réseaux sociaux. 338 mots par jour, ça équivaut à peu près à un petit échange avec le garçon de café, une petite discussion avec votre collègue dans les détours des couloirs des bureaux. Ce sont donc les interactions brèves qui ont aussi fait la différence ces dernières années. Jean-Loup, prof Jean-Loup, pourquoi tu t'en fous pas ?
Bah, je m'en fous pas parce que justement, en tant que prof, je vois quand même la réduction du vocabulaire chez mes élèves. Voilà, un vocabulaire de moins en moins riche, de moins en moins divers, de moins en moins adapté. Et en effet, c'est quelque chose que tu ressens.
C'est lié au manque de lecture.
Et bien sûr.
C'est lié à tout un ensemble de facteurs, y compris à la standardisation globale de tout. Et ensuite, en effet, au manque de lecture.
Et au manque de pratique en interaction.
Et éventuellement,
aussi.
Au manque de pratique. Et
c'est, voilà. Un échange. Laura ?
Oui, moi, c'est. Et puis, c'est quelque chose que j'essaye de prôner avec ma fille. On est toujours en train de bouquiner, d'apprendre des nouveaux mots. C'est malheureux parce qu'effectivement, il y a l'interaction sociale. On voit que les gens maintenant, même au restaurant, un couple sur son téléphone, qui n'ont plus rien à se dire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me...
Ouais, il faut qu'ils se séparent.
Oui, déjà, mais c'est quelque chose
direct.
C'est quelque chose qui me fait peur. On n'est plus capable d'aller au restaurant avec des amis ou en famille sans qu'il y ait le téléphone posé. Et puis je suis désolée, même si je soutiens les profs en grande majorité d'habitude, malheureusement, je trouve que les profs ont réduit également leur vocabulaire et leur complexité dans la sémantique pour être un peu mieux compris plus facilement aux élèves. Mais ça ne fait que tirer vers le bas. Moi, je suis. J'ai des amis qui sont plus jeunes que moi. On a à peu près 7-8 ans d'écart pour une partie de mes amis. Et des fois, par exemple, le mot sémantique, je pense que si je leur sors à table, ils vont me demander ce que ça veut dire. Je trouve ça quand même assez dramatique. Donc oui, on constate que malheureusement,
il y a un appauvrissement du
vocabulaire, de la grammaire, de la sémantique, mais aussi du lien social.
Et on parle moins, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est ça.
Dans l'étude,
moins d'interaction.
On est tout dans la
rapidité.
Comme
on est sur les écrans, on se parle moins.
Même l'info, si t'as une vidéo Insta sur une info qui dure plus d'une minute, les gens swipent mais ne regardent pas, c'est dramatique.
Moi, je pense qu'il est arrivé, il est arrivé aux mots ce qu'il est arrivé aux chiffres. Il y a une époque, on savait calculer, le calcul mental était quelque chose de qu'on avait tous, on savait tous calculer. Aujourd'hui, tout le monde calcule, toute la génération calcule avec une calculatrice. Les mots, c'est pareil. À une époque, on devait aller vers le savoir, parce que c'était, on avait besoin d'aller vers le savoir, sinon on était ignare. Aujourd'hui, le savoir vient vers nous. On a n'importe quelle question qu'on se pose, on appelle une IA ou on va sur Internet, on l'a immédiatement. Donc on se dit à quoi ça sert de l'avoir en magasin si j'en ai besoin. J'ai un distributeur gratuit de savoir. Et à volonté. Donc c'est à peu près la même chose que il est arrivé aux mots, ce qui est arrivé aux chiffres aujourd'hui.
Moi, je trouve que c'est pour le coup, c'est des inégalités.
Et accessoirement, on a aussi un exemple dans le monde où on peut devenir président des États-Unis avec un vocabulaire de 200 mots.
Et puis ça démontre aussi malheureusement des inégalités sociales. Tu regardes à l'époque de ma grand-mère qui est née en 47, quand tu regardes le certificat d'études, tout le monde savait extrêmement bien parler, tout le monde était riche en vocabulaire, tout le monde savait écrire sans faute d'orthographe. Alors que maintenant, tu regardes ceux qui ont beaucoup de vocabulaire, qui sont très forts, notamment sur l'orthographe et la grammaire.
Même sont des gens dans la calligraphie. À une époque, on avait une écriture qui était chiadée. Aujourd'hui, c'est fini.
Je voudrais qu'on prenne les 50 dernières secondes ou la minute qui nous reste pour avoir une pensée pour notre confrère et notre compatriote Christophe Glaize. Vous savez, Christophe Glaize qui est toujours détenu en prison. Il a été condamné à 7 ans de prison par l'Algérie. Il a renoncé à se pourvoir en cassation, à faire appel, quoi, en fait. Ce qui peut ouvrir la voie à une simplification, peut-être, de sa libération.
En tout cas, c'est l'explication qui est avancée par la mère de ce journaliste, Sylvie Godard, qui dit, nous avons pris une décision que Christophe puisse retirer son pourvoi en cassation. Il s'en remet totalement à la clémence du président Tebboune. C'est un acte très fort symbolique. Et donc, je rappelle qu'il a été condamné à 7 ans prison, il est en prison, donc en ce moment en Algérie, et maintenant il attend la grâce présidentielle, c'est pour ça qu'il ne fait pas ce pourvoi en cassation.
Allez, dans un instant, la deuxième heure des GG, la deuxième heure des grandes gueules, des natalités, est-ce qu'il faut obliger les papas à prendre un mois de congé de naissance, 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec Mourad Boudjelal, avec Jean-Loup Bonamy et avec Laura Varton-Martinez. Restez avec les grandes gueules en direction RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.